Bonjour à tous, très content de vivre ce temps de culte et maintenant nous allons pouvoir étudier la Bible, la parole de Dieu ensemble. Y a-t-il des coins chez vous qui attirent particulièrement le bazar? Un tiroir, un placard, une pièce tout entière, un garage, un grenier? Chez nous, dès qu'il y a une surface vide, le bazar s'accumule. Eh oui, le philosophe grec Aristote, je crois, était le premier à dire que la nature a horreur du vide. Et c'est une grande spiritualité, c'est une grande vérité spirituelle aussi, comme nous avons déjà chanté. Et nous allons regarder ça. Jésus a donné une parabole mémorable à ce sujet que nous allons étudier ce matin en Matthieu 12, versets 43 à 45. Il va se présenter comme le roi qui veut remplir ta maison. Je vous invite à lire avec moi Matthieu 12, 43 à 45, soit dans votre Bible, soit sur l'écran où le texte s'affiche. Matthieu 12, versets 43 à 45. Je lis Matthieu 12, 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Dans ce petit texte que Jésus raconte, j'aimerais voir une parabole pour son contexte, pour interpeller son entourage immédiat. Ensuite, une prophétie, en quelque sorte, une prophétie, un avertissement pour la chrétienté. Et enfin, un principe de vie pour chaque cœur. Voilà comment nous allons procéder ce matin. Une parabole pour son contexte, une prophétie pour la chrétienté et un principe de vie pour chaque cœur. Voyons tout d'abord une parabole pour son contexte. Ici, Jésus raconte une histoire, une anecdote tirée du monde des esprits. Les démons, plus haut dans ce chapitre, Jésus avait chassé des démons et il rebondit sur cette réalité. Et Jésus est plus fort que les démons et peut les chasser comme il a fait en versets 22, 23. Mais ici, il bascule dans une image, une parabole. Il raconte cette histoire presque comique, il faut dire. Un esprit impur devient SDF et il va chercher 7 copains pires que lui, des délinquants, comme si des esprits, il y a des degrés de délinquance, pour établir un squat. Ça nous interpelle, est-ce que les démons ils préfèrent les lieux arides? Est-ce que chacun vraiment, est-ce qu'il y a vraiment 7 copains pires? Mais en tout cas, selon verset 45, à la fin de son texte, il dit que c'est une illustration, c'est une parabole, c'est une image pour décrire sa génération, son entourage immédiat, pour décrire l'impact de sa venue sur son entourage. Donc il raconte cette histoire et puis il dit « il en sera de même pour cette génération méchante ». Donc il tire un principe pour toute la génération autour de lui. Et effectivement, on essaie de comprendre l'image, mais c'est vrai, sa venue... en Israël, dans les villes et les villages d'Israël, représente en quelque sorte cette maison qui est nettoyée, qui est balayée, qui est ornée, qui est vide. Par sa venue, Jésus, dans les villages et les villes d'Israël, Jésus a vraiment nettoyé la maison en quelque sorte. Il a donné des enseignements moraux très pertinents dans le sermon sur la montagne. Il a guéri des personnes autour de lui constamment. Il a chassé des démons. Donc il faut dire que certains villages, certaines villes ont été radicalement transformées par son passage. En chapitre 4, verset 4, il y a ce verset qui dit « Jésus, tous les démoniaques, tous les lunatiques et tous les paralytiques ont été guéris de toute la région. » Ça couvre à peu près tout. Les démoniaques, les lunatiques et les paralytiques, Jésus les a tous guéris. Donc il faut imaginer la transformation que ça apporte dans un lieu, dans une ville, dans un... Imaginons que tout d'un coup, voilà, tous les hôpitaux étaient vides, tous les prisons, tout était nettoyé. Ça serait remarquable. Mais du coup, cette génération, son entourage, sa génération particulière, était face à un choix unique, particulier, face à ces miracles, face à ce Jésus qui arrive dans une ville, qui arrive dans un village et qui balaye tout ce qui est impur, tout ce qui est méchant, miraculeusement, de manière puissante. Cette génération était face à un choix. Comment comprendre ce phénomène? Comment comprendre ce Jésus? Encore à notre époque, nous pouvons nier que ces choses ont eu lieu. Nous pouvons dire que la Bible a été falsifiée. Il y a d'autres raisons de ne pas le faire, je pense. Mais encore à notre époque, nous sommes à 2000 ans de ces événements. Donc nous pouvons nier que ça existe. Mais eux, ils n'avaient pas cette option. Ils pouvaient pas nier, ils étaient devant les faits. Ils ne pouvaient pas nier que Jésus a nettoyé la maison. Donc il fallait qu'ils expliquent ça. Comment se fait-il que les démons sont chassés, les gens sont guéris, qu'il y a une pertinence dans ces enseignements? Soit ils reconnaissent Jésus comme le roi, le Messie, quelqu'un qui est plus fort que les démons, et qui est plus fort que le diable, il n'y a que Dieu qui a Jésus. Donc soit ils reconnaissent que Jésus est celui qui peut faire ça, soit ils sont obligés de dire, eh ben, c'est lui-même, c'est le diable, et donc le diable, il est plus puissant que les démons. C'est ce que les pharisiens ont dit au verset 24. Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Soit pour apporter ce nettoyage, soit il faut qu'il soit Dieu plus puissant que les démons, soit il faut qu'il soit le diable, le prince des démons. Et donc les pharisiens ont dit, ben, c'est plutôt forcément ça ne peut pas être Dieu, ça ne peut pas être le fils de Dieu, donc c'est le diable. Mais ils n'avaient que ces deux choix devant eux, devant cette puissance, devant ce nettoyage. Comment expliquer? Soit Jésus est le roi qui règne, le Messie, soit il est le diable. Ils ne pouvaient pas rester neutres face à ce qu'ils faisaient, face à cette génération, difficile à rester neutre devant leurs yeux, ce que Jésus faisait. Et donc, Jésus utilise cette parabole pour le rappeler. Vous ne pouvez pas rester neutre face à ma présence, face à l'effet que j'apporte dans votre monde. Si les gens restent neutres, s'ils ne reçoivent pas Jésus comme roi, comme Seigneur, Jésus avertit que leur situation spirituelle va s'aggraver. Ce qui sera le cas, ils vont carrément crucifier le Fils de Dieu, qui est une situation bien pire. Donc, vous voyez, cette parabole est une illustration d'un propos que Jésus a dit un peu plus haut, verset 30. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est-à-dire celui qui, un peu la même façon de dire, c'est celui qui ne remplit pas sa maison, mais qui laisse vide, et il va se remplir des choses pires. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'assemble pas avec moi disperse, celui qui ne s'engage pas vraiment, qui ne m'invite pas à entrer dans la maison, après avoir vu et vécu des choses, des bénéfices que j'apporte, sa condition est pire. Et pourtant, c'est ce que les responsables religieux, les pharisiens notamment, c'est un peu le choix qu'ils ont fait. Cette génération, notamment par ces responsables religieux, ont voulu laisser le vide. Ils ont vu Jésus, et au lieu de remplir leur vie, leur pays, leur royaume, leur conception du monde avec Jésus, ils ont dit non merci. Et donc Jésus dit, votre condition spirituelle va s'aggraver. D'ailleurs, ils voulaient bien que Jésus leur fasse des miracles en verset 38. Juste avant, les scribes et les pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voulions te voir faire un miracle. Donc oui, on veut bien tes miracles. C'est assez sympa que tu nous chasses des démons, que tu guérisses les malades, mais après, on aimerait que tu passes ton chemin. Ils voulaient bien que Jésus leur fasse des miracles, c'est-à-dire qu'il nettoie la maison, mais qu'il fasse du ménage, mais ils ne voulaient pas. Il ne voulait pas comme roi, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas qu'il remplisse la maison. Et Jésus avertit sur cette disposition de cœur. C'est ça le problème. Si vous faites que nettoyer la maison, mais que vous ne le remplissez pas, ça laisse un vide et les choses pires vont s'installer. Ce qui est arrivé à cette génération méchante, en quelque sorte, puisqu'ils sont allés jusqu'à crucifier le Fils de Dieu. Donc, quelque part, Jésus était en train de leur dire, il vaut mieux ne m'avoir pas connu que de m'avoir connu et de m'avoir rejeté en pleine connaissance de cause. Vous avez vu ce miracle, vous avez entendu mes paroles, vous avez la preuve incontestable devant vous que je suis le Messie et vous ne voulez pas que j'entre dans la maison, c'est un problème. Il vaut mieux ne m'avoir pas connu, de m'avoir connu et de m'avoir rejeté en pleine connaissance de cause. D'ailleurs, c'est dans ce chapitre que Jésus parle de ce fameux blasphème contre le Saint-Esprit. Il dit tous les péchés des hommes leur sont pardonnés, tous les blasphèmes, mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors ça nous trouble un peu cette phrase, c'est quoi ce blasphème contre le Saint-Esprit? Mais cette parabole et puis ce contexte, cette génération-là nous aide à la comprendre. Dans ce chapitre, Jésus, oui, parle du blasphème contre le Saint-Esprit en visant ces pharisiens qui l'ont traité de diable. En voyant les choses qu'ils faisaient, les pharisiens, on disait, ça, c'est Belzébub, c'est le prince des démons, la seule autorité qui peut chasser les démons, comme ça, c'est le chef. Et Jésus dit, attendez, vous connaissez bien votre Bible, vous connaissez bien tous les prophéties de l'Ancien Testament, vous avez vu tous les miracles que je fais, vous savez pertinemment bien qui je suis, et vous choisissez de me traiter du diable. Là, c'est ce refus de laisser Jésus entrer, alors qu'ils savent qu'il apporte du bien, et du nettoyage et de la transformation. Donc ces pharisiens, notamment, ils ont vu la puissance de Jésus. Eux qui connaissaient parfaitement les prophéties, les précisions pour reconnaître le Messie, ils savaient très bien qu'ils correspondaient exactement au profil du Messie. Et ils se sont entêtés, ils se sont endurcis pour appeler Jésus le diable, et, avec ce refus de le laisser entrer dans la maison. Et Jésus dit, rester dans cet état, c'est ça qui est impardonnable. Mais encore, le contexte est particulier, il faut avoir, de ces pharisiens, pour commettre le blasphème contre le Saint-Esprit, il faut avoir toutes ces preuves, il faut le savoir très bien que Jésus est ce qu'il dit, et vouloir le rejeter. Heureusement, il y a eu des pharisiens qui se sont convertis à Jésus-Christ, il y a eu des gens qui se sont repentis, même parmi les chefs religieux, donc même eux, tout le monde n'a pas... a pu connaître le pardon. Et même dans cette parabole, il faut savoir que Jésus, cet esprit ne sont pas plus difficiles pour Jésus à gérer. Jésus peut chasser des légions. Donc la situation est pire si on refuse Jésus en pleine connaissance de cause. Donc ça, c'est une parabole pour son contexte, pour sa génération immédiate. Eux qui ont vu ces miracles, qui ont vu Jésus nettoyer tout leur pays en quelque sorte, et qui ont dit non, passe ton chemin. Nous voulons être notre propre chef, nous voulons laisser la maison vide de son véritable roi. Jésus a dit, votre condition sera pire. Et effectivement, leur condition s'est aggravée spirituellement en rejetant Jésus. Si vous rejetez Jésus, la seule solution, qu'est-ce qui reste comme solution? Pire. Donc ça, c'est déjà une parabole pour leur contexte. Ça nous aide à comprendre notamment là aussi le blasphème contre le Saint-Esprit. Ensuite, j'aimerais dire que c'est aussi une prophétie pour la chrétienté. Un avertissement ou une description de ce qui va se passer. Oui, la génération qui a côtoyé Jésus, qui a bénéficié de la venue du Messie, qui l'a vu agir, qui a entendu ses paroles, il faut dire qu'ils étaient des privilégiés. C'est une grande bénédiction d'être de cette génération qui a vu Jésus marcher sur la terre, qui l'a entendu, qui a vu ses miracles. Jésus va dire un moment à son entourage, « Heureux les yeux qui voyaient ce que vous voyez », c'est-à-dire des générations en avant ont attendu le Messie. Ils ne l'ont pas vu de leurs yeux, mais cette génération l'a reçu, l'a vu, l'a entendu. Quel privilège! Du coup, rejeter, c'est encore plus grave, plus sérieux. Mais par extension, dans l'histoire du christianisme, dans la suite des siècles, il faut dire que oui, certains pays, certaines régions du monde, par moment, ont été plus au bénéfice du message de Christ que d'autres. On parle de la chrétienté. La chrétienté, ce sont les pays, les cultures qui ont bénéficié de l'influence de la Bible, du message chrétien, de la lumière de Dieu au fil des siècles. On peut parler de l'Occident notamment. L'Europe, avant, était peuplée de barbares païens, des Goths, des Visigoths, des Saxons, des Francs, tout ça. Merci Astérix. Ça, c'était l'Europe avant, c'était oui, les païens, barbares, tout ça. Mais ensuite, l'Europe s'est christianisée. Avec le message de l'Évangile, Dieu On ne sait pas pourquoi il fait tout ce qu'il fait, mais voilà, l'évangile, même à partir de l'apôtre Paul, l'évangile est parti surtout à Rome, à partir de Rome, l'Europe a été touchée. Voilà. La chrétienté a eu beaucoup d'avantages, de privilèges de connaître le message de la Bible. Mais, attention, aujourd'hui, l'Occident se veut une maison rangée, balayée, ornée, mais vide. Vide de Jésus, vide de Dieu. Et c'est là le problème. J'ai trouvé cette phrase dans un commentaire d'une certaine pertinence. Il dit d'une manière remarquable, l'histoire du retour des esprits impurs est celle de la civilisation occidentale et de la chrétienté des deux guerres mondiales. Le nouveau paganisme est plus dangereux et plus efficace que l'ancien. Aujourd'hui, on se veut un pays humaniste, un monde humaniste. L'humanisme, c'est bien, l'humanisme, mais l'humanisme, c'est le christianisme sans Christ. On partage beaucoup des mêmes valeurs. L'humanisme partage beaucoup des mêmes valeurs chrétiennes. Mais l'humanisme, c'est le christianisme sans Christ. Donc les valeurs telles que la liberté, l'égalité, le progrès, la compassion, la science, tout ça, ce sont des valeurs qui sont nées dans le terreau chrétien. Ce sont des valeurs qui ne se seraient pas nées sans le terreau chrétien. Donc oui, il y avait un nettoyage, il y avait une purification des mœurs de l'éthique, notamment à partir de l'Empire romain et par la suite. Mais si vous détachez ces valeurs de Christ, si Christ ne remplit pas la maison, vous détachez ces valeurs de Christ dans la croix, de la lumière de Dieu, de la vérité de sa parole, ces mêmes valeurs peuvent devenir des démons, des monstres. Et je trouve que les paroles ici de Jésus, cette parabole, décrit avec beaucoup de pertinence les évolutions spirituelles et éthiques que nous voyons en Occident autour de nous. Et il y a une condition presque pire. Prenons l'égalité. L'égalité, c'est bien. Ce sont les évangiles, les épîtres de Paul, même toute la Bible à partir de la Genèse, qui ont introduit cette idée au monde, l'égalité. Homme-femme, maître-esclave, juif-non-juif. C'est merveilleux, c'est la manière que l'Évangile a libéré, a rendu notamment au sein de l'Église. Il y a une égalité dans le salut qui a impacté notre société. Mais si au nom de l'égalité, maintenant on avorte, je crois que c'est 200 000 bébés par jour dans le monde, c'est notre condition, vous voyez, est bien pire que l'Empire romain. Il exposait les bébés à la décharge, mais pas à ce niveau-là. Ou bien la compassion, une valeur chrétienne. La compassion, c'est très très bien. Jésus lui-même est rempli de compassion pour les foules. On a vu ce verset en Matthieu, à la fin de Matthieu 9. Jésus ému de compassion. Donc Jésus va vers les vulnérables, il va vers les faibles, il va vers les exclus, il va vers les opprimés, c'est formidable et ça a impacté le monde. Mais si on détache la compassion de Christ et de sa volonté, de son règne, de sa présence dans la maison, bien même la compassion peut virer. Aujourd'hui, au nom de la compassion, toute personne qui se voit victime est légitime dans ses exigences. On assiste à ce qu'on appelle une concurrence victimaire. Si vous êtes victime, si vous pensez être victime, vous avez tous les droits. Vous avez droit à une compassion aveugle. Autrefois, la mutilation du corps pratiquée sur un mineur était considérée barbare. Mais maintenant, au nom de la compassion, elle est célébrée par les droits transgenres, par victime d'oppression. Vous voyez, la condition peut devenir pire. Dans son livre, je trouve pertinent, dans son livre L'air que nous respirons, Scrivener parle de la malédiction du semi-christianisme. Il dit, en tant que société, nous avons conservé le sens du péché du christianisme, mais nous avons complètement oublié le salut. L'une des conséquences de la mort de Dieu que Nietzsche anticipait, c'est que la société allait hériter des notions de culpabilité, de honte et de péché, mais sans avoir les moyens d'obtenir la rédemption. En voulant le royaume sans roi, Nous avons dû détrôner la personne du Christ et instaurer à sa place des valeurs abstraites. Le problème devait être évident. Une personne peut vous pardonner. Les valeurs ne le peuvent pas. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on vit des fois une honte, une culpabilité, mais on ne sait pas quoi faire avec. Donc, on condamne les autres, et puis c'est un cycle sans fin de récrimination et de culpabilité. Donc, c'est la malédiction du semi-christianisme. On prend certaines choses, mais on a détrôné le roi. On n'invite pas le roi à vraiment habiter dans la maison pour apporter sa rédemption, son pardon, son amour, sa loi, sa sainteté, sa justice, sa transformation de cœur vis-à-vis des différents péchés, ce vide qui provoque toutes sortes de comportements néfastes dont on a déjà parlé dans ce culte. Donc oui, c'est quand même, une prophétie, un avertissement pertinent pour la chrétienté, ceux qui ont bénéficié en quelque sorte de la venue de Christ, de son message, de l'évangile, de la Bible, d'un héritage chrétien, mais qui aujourd'hui ne veulent pas du roi. Et des fois c'est l'Occident qui pousse dans les choix éthiques les plus néfastes, viennent plutôt de la chrétienté, malheureusement, qu'ailleurs. Mais enfin, j'aimerais terminer en vous rappelant que oui, c'est un principe de vie pour chaque cœur. Et là, c'est aussi pertinent pour chacun de nous. Vous avez compris, le cœur de l'homme est une maison qui demande un occupant. La nature a horreur du vide, le cœur humain aussi. Victor Hugo l'a bien compris. Il a dit « L'esprit, comme la nature, a horreur du vide. » Dans le vide, la nature met l'amour. L'esprit, souvent, il met la haine. La haine occupe. Je ne sais pas si la nature met toujours l'amour. Avec des cyclones et des catastrophes et des inondations, ce n'est pas toujours l'amour. Mais c'est vrai que l'esprit, souvent, il met des mauvaises choses quand c'est vide. Et la haine occupe. C'est vrai, quand vous avez un creux dans la journée, vous ne faites rien. Vous voyez bien à quel point les mauvaises pensées arrivent vite. Quand on ne fait rien, là, les pensées gravitent facilement vers la critique, vers la convoitise, vers l'auto-justification, vers la haine. Et on ne les veut pas, mais le vide les attire, on dirait. Alors, on essaie de soigner ça. Mais la force du parabole, Jésus dit, attention comment vous essayez de soigner les choses impures. Il ne suffit pas, selon Jésus, de juste balayer, vider, balayer et décorer. Et pourtant, c'est ce que nous essayons souvent, avec la religion, avec les bonnes résolutions de janvier, avec une discipline de vie, avec du développement personnel, avec une hygiène de vie. Oui, les choses peuvent être bonnes pour nettoyer la maison. On peut se débarrasser d'un temps des choses mauvaises. Mais si ça reste vide de vie, c'est dangereux. Regardez encore aujourd'hui la prolifération de spiritualités alternatives qui passent très très bien en France. France, un pays qui se veut non-croyant, en tout cas non-chrétien. Eh bien, les spiritualités alternatives viennent vite remplir les pensées, les énergies, les pratiques ésotériques, ça passe très bien. Et je rappelle aussi que cette parabole vise surtout ceux qui ont eu une petite dose de Jésus, une petite dose du christianisme, pour peut-être s'améliorer un peu, mais qui ne s'engagent pas vraiment, et où Jésus ne remplit pas tout le cœur, toute la pensée. Et c'est là que Jésus avertit. Il valait mieux dans un sens qu'il n'y ait qu'un esprit impur, pas trop méchant, que les sept esprits impurs bien plus méchants. Mais les sept esprits plus méchants sont arrivés parce qu'on a chassé, parce qu'on a laissé la maison vide. Vous savez, on dit qu'il y a des mesures de sécurité, de protection dans beaucoup de métiers, et en général c'est bien. Mais on rappelle que des fois, certaines mesures de protection peuvent donner un faux sentiment de sécurité si vous ne faites pas attention. Classiquement, c'est les gants de protection. On met des gants pour dire que voilà, on ne salit rien, on est hygiénique. Mais si avec les gants, on ne fait pas attention, on touche tout ce qui est sale, les poignets, et la bouche, et puis les cheveux, et dans la poche, et puis on continue à cuisiner, vos mains ne sont pas plus propres.
Oui.
Donc, il vaut mieux des fois laver les mains tous les quelques, au lieu de mettre des gants de protection, en se donnant l'idée que j'ai quelque chose, j'ai une mesure de protection. Et ça montre qu'une technique qu'on pense augmenter la protection finit par réduire la protection et la vigilance. Et c'est un peu aussi cette parabole de Jésus. Jésus dit attention à cette demi-démarche avec Jésus qui ne va pas au bout jusqu'à le faire entrer dans la maison. C'est-à-dire les gens, par mesure de sécurité, vont peut-être compter sur un baptême de bébé ou une fréquentation d'église, ou un héritage chrétien, une famille chrétienne. Et ça permet, dans un premier temps, de faire bonne image, d'avoir l'impression que la maison est rangée. Mais ça peut être un problème si ça donne un faux sentiment de sécurité et qu'il n'y a pas la vraie vie. Donc c'est ça la question ce matin. Est-ce qu'il y a la vraie vie de Jésus dans mon cœur, dans ma maison? La solution du mal et du péché, ce n'est pas juste de s'en vider, de se nettoyer. La solution, c'est de remplir avec quelque chose de meilleur, de plus fort. Et la seule personne, nous apprenons dans ce texte, dans Matthieu 12, la seule personne qui est plus fort que le diable, plus fort que le mal, plus fort que le péché, c'est Jésus. Même les pharisiens reconnaissent que la seule chose qui est plus fort que les démons, c'est soit le prince des démons, soit Jésus, soit Dieu. Il ne voulait pas reconnaître Jésus comme Dieu, donc il appelle prince des démons. Mais oui, la seule chose qui est plus fort que le diable, c'est Jésus. Et c'est lui qu'il faut vraiment mettre dans la vie, dans le cœur. Je rappelle ce que disait Vincent en citant Pascal tout à l'heure. Il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. Vous pouvez essayer plein de choses à mettre dans ce vide, mais si ce n'est pas à la hauteur, la grandeur, la puissance de Dieu lui-même, il restera un vide. Et quelqu'un ou quelque chose va chercher à la remplir. Et en général, ce serait une mauvaise chose. Vous connaissez ce bâtiment visible depuis la rocade, là, c'est un phénomène toulousain depuis des années. Je me suis promené sur Google Maps cette semaine. Et on le voit souvent en arrivant du sud de la rocade, là. Oh, c'est le bâtiment de Terre Sud. Avant, un magnifique bâtiment de bureau. Peut-être certains d'entre vous ont même en travaillé là-dedans, dans les bureaux. Mais les entreprises sont parties les uns après les autres, laissant un bâtiment vide. Alors, vous pouvez même sur Google Maps aller vous promener dedans. Je crois que ça a dû changer depuis, mais voilà, ça c'est l'intérieur. Maintenant, je crois qu'ils ont tout enlevé. Mais quand on laisse le vide, même ils ont tout essayé, ils ont mis des caméras de sécurité, ils ont mis des barrières. Voilà. Mais si vous laissez vide, on sait ce qui arrive à des bâtiments. Alors, ils ont réfléchi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On retente de mettre des bureaux, on barricade encore plus. On met encore plus de caméras, toujours de pire en pire. Quelle est la solution? A priori, ils vont vers une solution, ils vont mettre des gens, ils vont mettre des logements, ça c'est le dessin maintenant, ils vont mettre de la vie. Et on espère que peut-être ça peut résoudre le problème, mais en tout cas, c'est la solution pour éviter les squats, et c'est que les gens y habitent, qu'il y a de la vie. Et encore ce matin, je vous rappelle que pour que votre cœur ne devienne pas un squat, des mauvaises choses, remplissez-le. Remplissez-le. Alors complètement, comment remplir la maison de notre cœur avec de la vie? Eh bien, ici, Jésus, c'est le roi et il est venu pour apporter son règne. Et l'invitation, déjà en Matthieu 12, à son entourage, c'est de faire entrer le roi. Donc ce matin, si vous ne voulez pas que votre maison se remplisse de mauvaises choses, mettez-y Jésus-Christ comme Seigneur, comme roi. Vous pouvez le faire maintenant même. Seigneur, entre dans ma vie. Et quand il entre, demande-lui pas juste je te donne le garage ou le grenier ou une petite annexe. Dis-lui, je veux que tu entres dans toute ma maison, dans toutes les pièces, fais du ménage, purifie, et puis reste. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. C'est ça, se convertir à Jésus-Christ, c'est l'inviter à remplir tout votre cœur avec son pardon, avec sa grâce, avec son amour, avec sa lumière, avec la manière qu'il chasse le péché. Vous avez une bouteille vide avec de l'air. Quelle est la meilleure façon de chasser tout l'air? Vous remplissez d'eau, hein? Vous pouvez passer des heures à essayer d'aspirer, il restera toujours un petit peu d'air. Mais si vous remplissez, l'air est chassé. Pareil, si Jésus vient dans votre vie, ce matin même, voilà, votre maison sera en sûreté, en protection. Donc faites entrer, oui, Jésus comme roi, comme sauveur. Ça, c'est comme ça qu'on remplit la maison, qu'on lui donne la vie, parce qu'il est la vie, il est la lumière, il est l'amour. Et puis, concrètement, je dirais entretenez la vie spirituelle, cette maison qui est votre cœur, Jésus est là, et puis entretenez cette vie spirituelle. Quelqu'un disait que le meilleur commentaire de Paul sur cette parabole, c'est Éphésiens 5, verset 18, « Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Soyez tout le temps remplis de l'Esprit. » Et après, il donne Paul des instructions comment être rempli de l'Esprit, c'est notamment en chantant des louanges à Dieu, en vivant dans la reconnaissance, en vivant l'Église, en écoutant sa parole. Tout ça, ça entretient la vie spirituelle. Quand vous partez en vacances, hein, que la maison est vide, vous savez que les voleurs peuvent vite repérer la maison. Donc, même là, quand on part en vacances, on essaie de faire semblant qu'il y a quelqu'un dedans, on met des lumières, tout ça. Mais la meilleure protection contre les voleurs, c'est généralement, c'est la vie, c'est l'activité, c'est du monde, c'est du mouvement, c'est du bruit. Ce qui parfois conduit à ce que la maison soit un peu moins ornée, un peu moins balayée, un peu moins propre, de façade en tout cas, mais c'est plus protégé contre ceux qui voudraient envahir. Et là, c'est ça la vie chrétienne. Il y a ces défis, on n'est pas parfait, il est péché, mais cette vie où on revient souvent à Dieu, on demande pardon, on saisit Jésus-Christ, on vit l'Église, on vit dans la prière, dans la louange, dans les chants, dans l'obéissance, ça crée la vie et les impuretés ne vous trouveront pas leur place. Donc oui, quand Jésus est roi de notre cœur, quand il vit en nous, il éclaire et fait bouger. Voilà, nous sommes gardés, nous sommes protégés. Alors que, encore ce matin, que nous rendions compte à quel point le roi veut remplir notre maison, que nous ne laissions rien qui ne soit vide, aride, mais que Jésus prenne toute sa place, c'est ma prière. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions parce que tu es venu dans notre monde, tu as apporté lumière et vérité et puissance pour chasser le mal. Nous pouvons le constater dans ta parole, mais nous ne voulons pas juste nous arrêter là. Nous ne voulons pas encore ce matin rester neutres, indécis face à Jésus. Nous ne voulons pas juste soigner la façade ou les apparences, mais nous voulons donner tout notre cœur à lui. Nous voulons qu'il prenne toute sa place dans notre vie. Seigneur, nous te prions que oui, nous nous méfions du vide spirituel, du vide où il n'y a rien. On voit à quel point les choses peuvent facilement s'engouffrer, des pratiques, des pensées, les écrans, toutes ces choses peuvent nous conduire vers une condition pire. Mais nous voulons encore aujourd'hui fixer nos regards sur Jésus-Christ qui nous apporte un plein salut, son amour manifesté à la croix est suffisamment grand pour remplir chaque cœur et nous donner une pleine vie active à ta gloire. Que ce soit le cas pour chacun, pour notre Église, remplis-nous de la présence de ta grâce. Nous le prions au nom de Jésus. Amen.